Et comme pour un acteur, c'est la personnalité, sa présence.
Franchement, ma chère, c'est le cadet de mes soucis.
Je m'appelle Berlin Noël et j'aime bien les yens.
Come on, guy. We'll be sweet with me.
C'est tellement intéressant de voir la réaction des spectateurs à qui on peut déplaire. J'aime bien frôler les catastrophes.
Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
On a tout vu.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
Le cinéma est un œil grand ouvert sur la vie, un œil plus puissant que le nôtre. Il visualise à la fois l'exactitude et l'insaisissable. Parole de cinéaste, elle s'appelait Geneviève Dulac, et c'est ce qu'elle écrivait en 1932. 88 ans plus tard, c'est la même vérité. Le grand écran pour mieux ressentir la vie. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous. Qu'est-ce que c'est bon de vous retrouver.
Ouais, heureuse de vous retrouver après ces semaines si difficiles, de retrouver, même masqué, le cinéma, grandeur nature, l'obscurité des spectateurs unis vers un même écran large, gros son, grande image. Notre mission cette rentrée, c'est de vous redonner l'envie d'entrer dans une salle pour aller voir notamment ce film, cette comédie de la rentrée. Bonjour Sophie Le Tourneur.
Bonjour.
Énorme est votre quatrième long métrage. Il inverse les rôles, bouscule les stéréotypes, raconte une grande aventure, la grossesse, en mélangeant documentaire et fiction. Énorme avec Marina Foïs, Jonathan Cohen et une multitude de non-acteurs mais de vraies personnes. L'accouchement d'Énorme sera déclenché mercredi prochain. La rentrée cinéma, justement, nous allons l'évoquer avec vous. Bonjour Marc-Olivier Sebag.
Bonjour.
Délégué général de la FNCF, la Fédération Nationale des Cinémas Français. À la fin de cette heure, un hommage à un gigantesque acteur, parti en mai, Michel Piccoli. Et avant cela, les sorties de ce mercredi à l'affiche notamment, celui qui devait sauver l'été du cinéma, Tenet, de Christopher Nolan.
Composez-moi le téléphone du cinéma L'Éden.
C'est juste le moment d'aller au cinéma.
Mais non, je veux pas aller au cinéma, je veux parler à la gérante de L'Éden.
Allô ? Ah, non, pardon, madame. Je veux juste savoir, vous donner les sentiers de la gloire. C'est une histoire d'amour ?
C'est un film de guerre. Ça se passe en 14-18. C'est les Français qui se battent contre les Allemands.
Ah, alors il y a des canons, des soldats, il n'y a pas de femmes ?
Si. Vous savez ce que c'est ? Les soldats ont toujours des photos de femmes dans leur portefeuille.
Ah, alors il y a de l'amour ?
Il y a de l'amour, il y a de la bagarre, et puis des chansons, des sentiments, et tutti quanti.
Vivement dimanche. Énorme votre film, Sophie Le Tourneur. Sort dans un contexte très particulier et très délicat, où l'exploitation des films a souffert et souffre encore des mesures sanitaires imposées par la Covid. Marc-Olivier Sebag, donc délégué de la FNCF, ce décret vient de tomber. Le masque est devenu obligatoire dans la salle pendant le film.
Oui, le masque était déjà obligatoire dans les cinémas, bien avant d'ailleurs les commerces ou les entreprises. Le masque maintenant... Lorsqu'ils ont été ouverts le 22 juin, oui. Tout à fait. Depuis le 22 juin, les cinémas sont ouverts et... très tôt, le masque a été prévu dans le cinéma, mais dans la salle, on n'était pas obligé de le porter. Désormais, compte tenu de l'évolution de la situation sanitaire, il faut le garder pendant le film. Tout ça est très bien organisé. Il n'y a eu aucun problème dans l'organisation des salles de cinéma depuis leur ouverture à ce sujet. Eh bien, les spectateurs garderont le masque pendant le film. Beaucoup déjà le faisaient. Hein.
Petite question triviale. Oui. Quid des pop-corns ? Est-ce qu'on va pouvoir manger ? Parce que ça rapporte gros aux exploitants, notamment aux circuits.
Ça ne rapporte pas autant que ceux qui peuvent fantasmer sur le sujet, mais en tout cas, c'est surtout un plaisir pour les spectateurs.
Oui, mais alors, ils ont le droit de boire et de manger ?
Eh bien, ma chère Christine, vous avez pris le train cet été, je pense, ou à un autre moment, et vous avez vu que dans les transports où le masque est obligatoire pendant toute la durée des transports, on peut s'alimenter, car malgré les mesures sanitaires, les Français peuvent s'alimenter, peuvent manger, ils peuvent boire, et ils pourront boire.
Manger au repas, et mais ça c'est manger et boire pour le plaisir.
Eh bien, on peut manger et boire pour le plaisir, pour le repas. Nous ne sondons pas les cœurs dans les salles de cinéma. Les gens pourront continuer à voir des films dans les mêmes conditions qu'auparavant, ils devront juste garder leur masque pendant la séance.
Spectateurs espacés en zone rouge.
Oui, il y a un certain nombre de départements, il y en a une vingtaine qui font l'objet de mesures plus particulières. Et donc les mesures d'espacement, c'est-à-dire garder un fauteuil de libre à sa droite et à sa gauche, ou entre les spectateurs, ou entre les groupes de spectateurs lorsqu'ils viennent ensemble, bien cette mesure qui était en place depuis le 22 juin est conservée dans les zones rouges. Dans les autres départements, on peut s'asseoir côte à côte avec des personnes dans la salle. et on s'assoit en fait où on veut.
Comme dans les transports, quoi.
Comme dans les transports, exactement la même règle que dans les transports, sauf dans les zones rouges où on continue à appliquer la règle qui s'est appliquée depuis le début et qui ne pose pas de problème.
Juste une chose, ça va être bizarre hein, de regarder un film avec un masque. Je sais pas, Sophie Le Tourneur, vous imaginez, vous avez testé ça, non?
Non, j'ai pas encore testé. Par contre, j'ai pris le train.
Ouais. Et vous avez vécu votre transport en train.
Donc, ouais, voilà. Bah oui, j'ai vu.
Vous avez un film sur votre écran. Ouais. Voilà.
Ça prouve que ça peut se faire. Et d'une part, il y a un nombre relativement important des spectateurs qui conservent leur masque d'ores et déjà, hein, pendant la séance. Et vous savez, la force du cinéma, c'est justement d'emporter le spectateur, de le faire voyager, pour le coup, dans le film. Et à ce moment-là, eh bien, vous ne pensez qu'au film. Vous oubliez le masque.
Est-ce qu'on sait si toutes les salles de cinéma ont rouvert?
Alors, l'immense majorité des salles de cinéma a rouvert. Certaines sont restées fermées cet été, mais comme elles le faisaient auparavant tous les étés, hein, notamment certaines salles associatives. Et depuis la mi-août, certaines salles qui avaient pu fermer pendant l'été ont toutes rouvert. D'une part parce que l'offre de films est bien plus importante aujourd'hui qu'elle ne l'était au début juillet. Et puis il faut accueillir les spectateurs. Il faut que les cinémas ont une place particulière dans la cité. Ce sont des lieux culturels qui sont dans toutes les villes, notamment les plus petites. Vous savez, il y a 2000 cinémas en France. Eh bien,
unique en Europe.
Unique en Europe, c'est le premier pays pour le cinéma en Europe, hein, le cinquième dans le monde. Et c'est essentiel que les cinémas soient là, soient ouverts pour que les Français puissent se cultiver, puissent se distraire. Ce rôle important, il a été aussi évoqué hier par le Premier ministre qui était à Angoulême, qui a fait un discours sur le cinéma et sur les cinémas, et c'est très important.
Alors, si c'est pas une première, ça y ressemble dans l'histoire de l'exploitation. Warner ne donne pas les chiffres, le ciné-chiffre de Tenet jusqu'à lundi. Ça s'est jamais vu, ça.
Oui, mais malheureusement, Christine, l'épidémie de Covid ne s'est jamais vue non plus.
Oui.
Donc, Warner a fait ce choix. Ils ont Tenet est le premier film américain à sortir dans le monde depuis le mois de mars.
Oui.
Et à sortir dans le monde, sauf aux États-Unis. C'est une première, c'est un élément tout à fait original. Et Warner prend ce risque de proposer ce film dans les autres pays, alors que sur son marché naturel, les États-Unis, le film ne sort pas. Ils ont décidé de prendre un peu de temps pour examiner ces chiffres et pour les communiquer lundi.
Ils ont peur du bouche à oreille ?
Non, ils attendent le bouche à oreille. Ouais. On a peur, ils l'espèrent.
Non, mais vous, on est entre nous là. Vous les avez les chiffres ?
Je n'ai pas les chiffres, mais
vous les avez ?
Non, je n'ai pas de chiffres, mais nous avons des remontées, j'allais dire non chiffrées,
des tendances de ce qui
se passe dans la salle. Eh bien, les spectateurs sont là, les spectateurs sont contents et ils sont avec ce week-end qui commence aujourd'hui, j'espère qu'ils seront très nombreux dans les salles pour voir Tenet et tous les autres films.
Dernière question avant d'aborder le film de Sophie Turner. Quand reviendra-t-on à la normale ? Moi, j'ai entendu des chiffres affolants du style 5 ans.
Alors, si vous me demandez quand on reviendra-t-on à la normale du point de vue sanitaire, je ne peux pas vous répondre,
bien sûr. C'est à peu près la même question en plus.
C'est à peu près la même question.
C'est vrai.
Et les deux sont liés. C'est quand on sera revenu à la situation normale du point de vue sanitaire que le niveau de fréquentation, qui aujourd'hui est très bas, et il est très bas depuis le 22 juin, et il est à peu près 30% de la fréquentation normale. Et c'est une moyenne. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où c'est pire et des endroits où c'est un peu mieux. Mais il est à... Donc, cette situation catastrophique pour l'économie des salles se poursuit. Ça va un petit peu mieux depuis la mi-août et on reviendra à la normale quand il y aura plus de films sur les écrans.
Oui.
Et puis lorsque évidemment toutes les règles qui contraignent les uns et les autres se seront réglées. Mais je tiens à tempérer ce que je viens de dire. Quand on regarde les films qui sont sortis cet été, eh bien ils ont pu chacun rassembler un très grand nombre de spectateurs. Et on peut en parler, si vous voulez, un peu plus longuement.
Merci Pierre, merci Marc-Olivier. C'est vrai que vous restez avec nous, bien sûr. On va évoquer un film qu'on aime beaucoup qui sort mercredi prochain, qui s'appelle Énorme, avec Sophie Le Tourneur.
T'es tendu ?
Non.
Tu veux pas qu'on fasse quelque chose pour se détendre ?
Comme quoi ?
Je sais pas, comme d'habitude.
Ouais, je vois. Je dois y aller.
Faut que tu partes. Mais tu vas où?
Chez ma mère.
Mais pourquoi?
Parce que c'est mon anniversaire.
Mais j'ai rien prévu.
T'as mes 40 ans.
Moi, j'ai pas de cadeau.
Eh ben, tu veux que j'en achète un avec ta carte bleue? Je te l'achète. Je l'achète, je te le donne. Tu me l'offres? Oui, tu me l'offres.
D'accord.
On fait ça.
Ok.
Super.
Un petit extrait de votre film, Sophie Le Tourneur, énorme, pour définir tout de suite les rapports de ce couple. Frédéric, c'est Jonathan Cohen, gère la carrière et la vie de sa femme pianiste, c'est Claire, Marina Foïs, Marie à Jean, un couple sans enfant jusqu'à l'énorme envie pour lui d'en avoir un, et faire un bébé presque tout seul, un peu pour détourner l'expression habituelle. L'idée est venue lors de votre deuxième grossesse, dites-vous, inspirée par votre partenaire, votre mari. Pourquoi il était très proche de cette grossesse?
En fait, non. Enfin, l'idée n'est pas.
Vous avez pris des notes. Vous avez pris des notes.
Voilà. L'idée, c'était plutôt de faire un film sur le 9e mois de grossesse, parce que je trouvais ça dingue. Enfin, comme la première fois, d'ailleurs. Enfin, comme la première fois que j'ai été enceinte. Oui. Mais c'est vrai que c'est un moment très particulier, puisque le bébé est terminé. Donc, c'est un peu le mois en plus où on attend.
J'aime
en même
bien
temps,
le bébé
on a
terminé.
Peur. Bah, le, ouais. En tout cas, ce qu'on a à faire. Donc, c'est un peu du surplus. Puis
oui,
souvent,
c'est ça.
On a envie, déjà de rencontrer ce bébé et puis aussi de d'arrêter de grossir, de tout ça, de retrouver son corps et et plein de choses qu'on peut faire quand on n'est plus enceinte aussi. Voilà.
Mais où, quand est venue l'idée d'un
alors,
homme
sur le couple, sur la,
oui, là, qui a vraiment alors, un instinct de maternité.
Ouais. C'était une grossesse voulue chez vous. Enfin, il n'y a pas
ah
de
oui,
relation
moi,
avec
tout à fait une grossesse
film,
vécue,
bon,
vécue, voulue et tout.
Mais cette idée donc incroyable qui pourrait d'ailleurs être reméquée par les Américains, c'est très drôle le fait de voilà cette idée du mari qui a plus d'instinct de maternité, on va dire.
En fait, c'est vrai que je voulais parler de la complexité de la grossesse et aussi de la maternité. Donc, pour en parler, je voulais aborder une facette qui est un peu plus taboue. Enfin, c'est vrai que c'est un peu un mélange de plein d'émotions différentes quand on attend un bébé et même quand on commence à s'en occuper au début. Donc, on a tendance à vouloir dire que c'est naturel, que non, mais t'inquiète, etc. Alors qu'en fait, c'est à la fois hyper beau, monstrueux, on se sent bien, on se sent mal, enfin voilà. Et c'est vrai que j'avais envie de parler que d'une seule facette en fait de ce ressenti, qui serait un petit peu donc le personnage de Claire, et de parler aussi des questions de place et de comment on peut être perdu aussi, de pas savoir vraiment où est notre place. Et c'était une façon aussi dans cette inversion, enfin, de ces deux personnages, de parler à la fois des hommes qui sont exclus de la relation mère-enfant, donc en inversant. Et parce que ça, c'est aussi quelque chose qui me touche beaucoup, c'est-à-dire de dire, voilà, on veut être des femmes indépendantes, libres, mais on veut pas lâcher notre privilège de mère. Mmh. Bah ouais, mais en fait, on peut pas tout avoir, quoi. Et la question du privilège de la mère et de la place, de laisser la place aussi au père, c'est une vraie question. Qui est pas simple du tout.
Là, on en parle sérieusement, mais après, il faut ajouter du comique à ça parce que.
Ah bah oui.
Et
oui.
Ouais.
Non, puis alors défi, c'était à la fois ça dans l'inversion et en même temps, c'est aussi un portrait de choses qui se passent aussi aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on peut appeler les nouveaux pères et dire que c'est touchant aussi. Enfin, c'est à la fois les nouvelles mères doivent trouver leur place et les nouveaux pères aussi et que il y a une révolution à faire dans ce sens-là. Et moi, je trouve qu'il y a rien de plus touchant qu'un homme qui remet en question les injonctions de virilité, qui se réinvente, même si c'est compliqué pour tout le monde, quoi.
Et qui avoue donc à sa mère qu'il a envie d'avoir un enfant. On a choisi cet extrait parce qu'elle est assez fantastique. Sa mère, c'est la vraie mère de Jonathan Cohen dans la vie. Elle s'appelle Jacqueline Cacou.
J'ai assisté à un accouchement. Il y a quelqu'un qui a accouché dans l'avion.
Dans l'avion?
Ouais.
Oh.
Je l'ai tenu dans les bras, le bébé.
Ah oui. Ça fait quelque chose, hein. Oh, tu vas pas te mettre à chialer. Ça t'a donné envie d'avoir un enfant, toi?
Oui, enfin, avec Claire.
Avec Claire, oui. Mais un enfant, toi? Ta propre progéniture, quoi. Un enfant, toi?
Oui, mais avec Claire.
Ah, bien
Claire.
Sûr, avec Claire. Bon. Mais un enfant à toi, non?
Si.
À toi?
Si, si, bien sûr.
Ben alors, qu'est-ce que vous attendez? Vous êtes plutôt jeunes, vous deux. Oui. Surtout Claire.
Mais elle veut pas d'enfant, donc.
Ou alors tu la quittes, Evelyn, et puis c'est tout.
Ça te fait rire, en plus? T'as pas honte de dire ça?
Mais c'est pas ligaturer les tons.
Quel rapport? De quoi tu. Quoi?
Derrière ton dos, non?
Hein? Sur à court de.
Je sais pas.
Quel rapport avec les trompes?
Demande-lui quand même, parce que c'est pas sûr.
Il n'y a pas de contraceptif autre que la pilule, ça je te le garantis.
Il faut trouver une solution.
L'idée, on peut la dévoiler, Sophie Le Tourneur, ce sera de lui faire avaler des sucrètes à la place de la pilule. Grand et fort argument de comédie, ça, il s'est inspiré par la mère. Donc un vrai argument de comédie, c'est-à-dire que même vous inversez des scènes habituellement vues tellement de fois au cinéma, comme lui qui est obligé de, qui n'arrive pas à lui dire qu'elle est enceinte. Mais ça, c'est le contraire de l'habitude.
Ouais, ouais. Bah, c'est ça qui était marrant aussi, c'était de construire à la fois une situation qui peut être complètement réaliste, en fait, lui en tant qu'homme et elle en tant que femme. Et à la fois que ce soit une inversion, que les deux soient tout le temps en parallèle, que ce soit une inversion et pas une inversion, quoi. Et c'est ça qui crée le comique, quoi.
Les deux sont enceintes en permanence, il faut le dire, à l'image. Les deux sont enceintes en permanence. Ouais. Elle un peu plus que lui.
Il fait une couvade, quoi.
Il fait une couvade, hein, effectivement.
Ouais.
Voilà, oui, c'est ça. Donc, ils sont comme ça dans
ce
un rapport.
Qui est très fréquent.
Ouais.
Les couvades?
Ouais.
C'est vrai?
Ah ouais.
Comme il fait tout à sa place, il va attendre à sa place, en gros.
Ouais.
L'enfant.
Bah oui, il attend à sa... enfin disons qu'il fait tout à sa place, disons que c'est un écran, c'est ça que je trouvais intéressant de parler du couple comme une petite entreprise aussi, de dire voilà, ils ont chacun leur rôle dans le couple et les fragilités, les failles de chacun se nourrissent et c'est, malheureusement c'est s'empire. Enfin c'est un peu ça,
sauf que ils sont presque, il y a presque deux mères et on peut se demander où est le père.
Ouais, c'est la
vraie question.
Ouais.
C'est aussi une vraie question.
Bah, c'est la question qui se posera dans un prochain film.
Ah, j'espère. je voulais en venir là. Oui, j'espère qu'on aura la suite parce que ce couple-là, confronté à un enfant, ça peut donner de très très belles choses intéressantes.
Oui, à un moment, il va se confronter aussi à la réalité. Et puis quand on devient père, bon, ça c'est encore un autre sujet, on se confronte à son propre père. Enfin,
bien sûr. Voilà.
Depuis vos débuts, votre vie inspire votre cinéma et l'inverse. Vous dites que la vie, c'est plus important que la fiction. C'est vrai, vous avez dit, il faut partir de la vie, pas du cinéma. Beaucoup de metteurs en scène que j'ai croisés trouvent le cinéma plus fort que la vie, pas moi. Donc c'est la fameuse thématique de François Truffaut, ça.
Ouais. Mais en même temps, ce que vous disiez au début de l'émission, la citation, c'était assez vrai aussi. Enfin, ça ne se contredit pas.
Ouais.
C'est-à-dire que
l'œil est plus grand et plus précis et voit l'insaisissable.
Ouais. Mais il voit la vie. Il voit pas le cinéma. Ouais, c'est ça le.
Et à partir de là, donc, vous avez choisi d'accorder une grande place documentaire à ce film, mais sans le montrer. C'est-à-dire que, là, on va en parler, mais on ne devrait pas le savoir, presque.
Non.
Hein?
Bah, l'idée, c'était de trouver le dispositif adéquat de mise en scène pour filmer ce que j'avais envie de filmer. Et la puissance... Enfin, de dire que la grossesse, c'est difficile et que c'est une épreuve... C'est aussi montrer ce qu'il y a de complètement dingue et complètement surnaturel et mystique dans qu'est-ce que c'est qu'un nouveau-né. Il faut filmer ce visage de nouveau-né, enfin montrer que oui, ça se construit à l'intérieur d'un corps, c'est complètement dingue. Quoi.
Avant d'aborder ça, donc on va passer cet extrait que j'aime beaucoup parce qu'elle va découvrir qu'elle est enceinte à l'échographie, ce qui est complètement dingue, mais qui a dû peut-être sans doute arriver hein, pour des grossesses.
C'est d'ailleurs c'est un peu un cliché dans certains films aussi, non?
Enfin, la scène n'est pas clichée, elle est très drôle, on l'écoute.
Allez, on va passer à l'examen et puis on va vérifier tout ça. D'accord? Ah oui, il y a une grosseur là.
Une tumeur?
Bah, ça arrive jusqu'au nombril. On va regarder ce qui se passe là tout de suite, oui. Je vais vous mettre un peu de gel sur le ventre. C'est un peu froid, hein, d'accord? Bon. Ah, je comprends. C'est un bébé.
Un bébé cancer?
Mais non, c'est un bébé normal.
Bébé normal?
Bon, vous voyez la tête, là? Regardez.
Vous êtes sûr que c'est mon ventre que vous filmez, là?
Regardez, il bouge.
C'est pas des images d'archives?
Ça, c'est votre ventre, hein. Les images qui sont là, c'est les images du ventre. Quand même mieux ça qu'un cancer, non? Je vais regarder s'il y en a qu'un.
Il pourrait y en avoir plusieurs?
La tête mesure
sa tête.
5 cm. C'est une grossesse d'à peu près 4 mois. Hein. Je vous fais écouter son cœur?
Oui, s'il
vous
plaît.
Vous voulez bien, Madame Girard?
Tu veux bien, chérie? On écoute le cœur pour voir comment ça.
Sophie Le Tourneur, cette gynéco de la Seine n'a pas rencontré Marina Foïs et Jonathan Cohen.
Ah si.
Elle, oui. Mais c'est une vraie gynéco.
Ouais, en fait, c'est la gynéco qui m'a suivie pour mes deux grossesses.
Ouais.
Voilà, donc c'était très simple, je l'ai appelée.
Mais elle joue bien.
Ah bah oui, bah, elle joue son propre rôle.
Oui, c'est ça. Certes, mais... Ouais.
Alors en fait, ce qui s'est passé, par exemple, pour cette scène, c'est qu'on a... Moi, j'ai fait plusieurs impros avec elle, avec, par exemple, des amis à moi qui ne veulent pas d'enfants.
Ouais.
Des femmes, et qui... Je leur demandais d'avoir la réaction... qu'elles auraient, enfin voilà. Oui. Donc ça, je l'ai fait plusieurs fois. Après, j'ai tout monté parce que moi, je monte. C'est marrant d'entendre le film seulement au son parce que je monte au son vachement mes dialogues, oui. Tout ça. Enfin, sur Pro Tools, je monte les enregistrements sonores des répètes, quoi.
Oui.
Et après.
Et après, vous écrivez.
Et après, j'écris.
C'est
ouais.
Ça qui est fou là. Il y a plusieurs étapes. Enfin, il s'est fait.
Il y a plein d'étapes. C'est une usine à gaz.
Il y a l'idée. Il y a l'idée. Ensuite, il y a ces impros.
Ouais.
De ces impros, vous prenez le meilleur. Enfin, ce qui vous semble le plus juste ouais. Par rapport à votre film. Vous l'écrivez.
Non, je le monte. Parce que j'ai besoin de voir comment c'est.
Ah oui, en plus.
Ah bah ouais, parce que je travaille au son.
Ouais.
Beaucoup. Enfin, je travaille au rythme. Je travaille. Pas trop, enfin si quand même dans le sens des mots, mais...
C'est le film sonore avant le film d'image, en gros.
Voilà,
vous avez
en fait, c'est ça.
Continuité sonore.
Ouais.
Et
ouais.
Ensuite, vous le faites jouer.
Voilà.
C'est-à-dire là, la gynéco a dit un texte, qui était le sien. À un moment, mais plus tout à fait, que vous avez...
Voilà, bon. Que j'ai... Ouais, mais il n'y a pas un mot qui a dit que j'ai inventé, quoi.
D'accord.
En tout cas, voilà.
D'accord.
Ouais.
Et Jonathan Cohen et Marina Foïs disent ce que vos amis, etc., ont dit pendant ces improvisations, mais en improvisant aussi eux-mêmes.
Voilà, on avait fait aussi une passe en plus où ils improvisaient aussi eux de leur côté, en ayant, à partir du premier texte d'impro, enfin du premier montage de texte d'impro,
ouais.
Donc c'était une couche supplémentaire. Voilà.
Et vous teniez à tous les personnages qu'ils rencontrent, soit de vrais... personne dans la ville, je veux dire, avec ses vraies fonctions, par exemple.
Ouais.
Par exemple, ils rencontrent dans leur immeuble, il y a un chaman.
Ouais.
C'est un vrai chaman?
Oui, c'est un vrai chaman.
Mais là, ça veut dire qu'est-ce qu'il sait, parce que la scène est drôle, ça veut dire qu'il s'est un peu moqué aussi de lui-même avec cette espèce de cérémoniale qu'il impose.
Alors, c'est une vraie cérémonie, hein, par contre.
Ben
hein,
oui.
Tout est vrai, c'est vraiment chez lui. En fait, c'était marrant parce que moi, en gros, j'avais du mal à trouver... Au départ, c'était un marabout dans le scénario.
Oui.
Donc, j'ai été voir plein de marabouts, etc. C'était hyper compliqué parce que les anciens nous voient et ne veulent pas que les secrets soient divulgués. Mmh. Et moi, je voulais que ça se passe vraiment tel que ça se passe, quoi. Donc, c'était très compliqué.
Ouais.
Et finalement, on était en train de tourner à New York. C'était un des rôles qui nous manquait. Et il y a mon assistant qui me dit, ah, mais super, par machine, j'ai eu le contact d'un chaman qui habite à Clamart, je crois. Et donc, je dis, bon, bah, va faire le casting et vous faites une impro, l'impro de la scène, quoi. Et en fait, c'est là où il lui a dit qu'il avait trouvé son nom à Mâcon dans une de sudation, etc. Enfin, tout ce qu'il dit, toute la discussion et même la question. Et ça, c'est des chants amérindiens. Non, c'est du pagan metal. Ça, c'est des trucs qui ont eu lieu. J'étais même pas là. En fait, moi, j'ai juste la vidéo du casting et j'ai écrit ces dialogues par rapport à.
D'ailleurs, la scène est drôle, mais elle sonne juste.
Ouais.
C'est ce que vous voulez. Quoi. Vous voulez que ça sonne juste tout ça. C'est une comédie, c'est énorme, son ventre est énorme, lui a une réaction énorme, mais vous voulez que ça soit vrai, que ça soit juste.
Bah moi je trouve que les dialogues de cette scène avec le chaman, ces dialogues sont super, enfin ce qui m'a donné après moi j'en extirpe vraiment ce qui moi je trouve beau, drôle ou poétique ou voilà, enfin les trucs qui prennent aussi du sens parce qu'il y a plein de niveaux de sens dans le film. C'est plutôt un film en strates quoi comme ça. Mais c'est pas que je veux que ça sonne juste, c'est qu'en fait c'est ça qui me fait kiffer quoi. C'est voilà, c'est de recevoir, enfin c'est d'être sensible.
C'est la condition sine qua non pour que le reste passe, ce qui est énorme, ce qui est plus gros, ce qui est c'est une façon de conditionner les choses.
Non, c'est pas pour que le reste passe.
Mais c'est drôle d'être aussi précis et aussi fou en même temps. Vous voyez ce que je veux dire?
Ouais.
Aussi précis dans le documentaire
point,
et aussi dingue dans la fiction.
Ouais, un contrepoint, je sais pas. En tout cas, c'est vrai que dans ma démarche de... Enfin, en même temps, ils sont quand même assez excentriques aussi, tous les personnages, que ce soit le chaman,
la
prof de piano, oui. La mère de Jonathan, l'autonomiste. Enfin, il y a quand même d'autres personnages... Par exemple, l'intérieur de l'appartement de chez la mère de Jonathan, c'est vraiment son appart, quoi. Par exemple, donc c'est pas un contrepoint, c'est juste, c'était la réalité des fois est complètement délirante, quoi.
Alors, l'autonomiste, vous en parliez. Moi, j'aime beaucoup cette scène parce que tout d'un coup, ça dit quelque chose que beaucoup de femmes ressentent quand elles sont enceintes, qu'on ne regarde que leur ventre et qu'on ne touche que leur ventre. On écoute cet extrait.
Moi, j'en peux plus d'être allongée, d'être tripotée, d'être qu'on me touche de partout. Franchement, vous rendez pas compte, quoi. J'ai l'impression d'être un objet. J'en peux plus, j'en ai ras le bol. C'est clair, ça? Ou c'est pas clair? Je peux le dire? Arrêtez de me toucher. Je n'en peux plus. Je suis pas un truc. Enlevez votre main, s'il vous plaît. Lâchez-moi. C'est possible? Faites attention, enlevez votre main, s'il vous plaît. Oh non, arrêtez de me toucher.
Je ne vous touche pas.
Oh,
c'est une grande actrice, Marina Foy, c'est une grande impro. C'est une impro ou pas?
Alors voilà, donc cette scène, là c'est bon, c'était la scène. Et c'est ça que j'aime bien aussi. Comme moi, je suis habituée à travailler avec des acteurs non professionnels et à mélanger le documentaire à la fiction, etc. C'est vrai qu'au bout d'un moment, je pense que pour Marina, c'était compliqué de se sentir comme un objet aussi. Moi, comment je travaille? Un jour, elle m'a dit, je suis pas une marionnette. Enfin, voilà. Parce que moi, je travaille d'une certaine façon. Moi, j'ai fait les arts déco. J'ai pas fait d'école de cinéma, tout ça. Donc, j'ai des méthodes un peu particulières, je pense, pour des acteurs professionnels, quoi. Et je pense qu'au bout d'un moment,
sa colère s'est ressentie dans cette scène. Est sortie.
Ben non, la perte de contrôle, quoi. Ouais. La perte de contrôle. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi Marina. Parce que c'est quelqu'un qui est très fort, qui est très dans le contrôle, qui a une forme de... C'est pas quelqu'un qui lâche prise facilement. Mmh. Et donc, voilà, quand je lui ai parlé du film, je lui ai dit, il y a juste un moment où tu lâches prise, en fait. Elle a lâché prise, mais dans tous les sens du terme. Et ce qui était génial aussi, c'était la réaction de l'apto, quoi, oui. Qui s'est pas démonté. Donc,
qui est donc une vraie.
Qui est pas du tout comédienne. Ouais. Et les scènes, on les faisait une fois. Hein.
C'est une prise, là.
Chez la gynéco, par exemple, la scène, on avait 2 heures pour tourner parce qu'elle partait en vacances derrière.
Ouais.
Et là, c'était pareil. Enfin, c'est vrai qu'avec les non-professionnels, on peut pas faire la scène 30 000 fois.
Mais non.
Voilà, ils peuvent pas. Enfin, il y a un truc, il faut que ce soit bon tout de suite, quoi.
Ouais.
Et donc, elle s'est pas démontée. Et on voit qu'il y a un petit mouvement de caméra, parce que le film est en cadre fixe tout le temps.
Ouais.
Et c'est juste le chef-op qui s'est dit, putain, Marina, elle va nous claquer dans les doigts. Donc, tout le monde était hyper mal, quoi. Ouais. Mais Marina, elle savait ce qu'elle faisait aussi. Enfin, voilà, elle s'est servie de tout ce vers quoi je l'amenais aussi pendant le tournage.
Ouais.
Et il y a eu plein de trucs comme ça hyper beaux qui se sont passés. Et je pense quand elle a revécu, je sais pas, mais... La scène de l'accouchement.
Alors justement, l'accouchement, normalement, on n'a pas le droit au cinéma de filmer un bébé qui vient de naître. Vous avez donc préparé tout ça à l'hôpital, vous êtes bien mis avec tout le personnel, etc.
Ouais.
Et vous avez filmé 15 accouchements.
Ah bah plein. Bah, disons qu'on a fait un tournage documentaire d'à peu près un mois en équipe super réduite. Bah, j'ai adoré, moi. Ouais. Enfin, c'était super. Et donc il me fallait des images, pas seulement des images, enfin en tout cas une situation d'accouchement. Donc on sait jamais comment ça se passe. Et puis il fallait aussi obtenir les autorisations. Donc des fois on suivait un accouchement et finalement on filmait pas la fin parce que ça se passait pas bien, ou alors finalement les personnes avaient changé d'avis. Donc il y avait plein de mais en gros, les expulsions, j'ai dû en avoir une quinzaine, ouais. Après, il a fallu choisir parce qu'elles étaient toutes aussi belles les unes que les autres, bien sûr. Ah bah, nous, on était... Enfin, c'est pas du tout comme quand moi, je l'ai vécu quand j'ai accouché, en fait. Quand on voit de l'extérieur,
c'est encore plus bizarre, quoi. C'est encore plus. Enfin, du coup, j'ai ressenti aussi ce que peuvent ressentir les certains pères qu'on croise dans les couloirs. Là, ils sont complètement. Enfin, moi, je trouve ça bouleversant. Ils sont complètement démunis. Et c'est vrai que quand on accouche, en tant que femme, on a des hormones spéciales en fait qui font qu'on vit la situation, qu'on a une force délirante, quoi. Mais en fait, c'est les animaux. C'était pour protéger leur tout petit, quoi, des agressions. Mais les hommes, ils ont rien, en fait. Enfin, ils ont rien. C'est pas ça que je veux dire, hein, mais ils se prennent le truc de plein fouet, en fait. Ils sont pas dans un état de transe, quoi. Ouais. Et moi, j'étais exactement à cette position quand on a filmé. Et je trouvais ça fou. Ouais,
c'est très beau, génial. En tout cas, à l'image. Ça s'appelle Énorme. Et le film sort mercredi prochain avec Marina Foïs et Jonathan Cohen. Encore un petit morceau de ce film avant Benjamin Biolay, que vous avez fait tourner d'ailleurs.
Mais tu veux pas qu'on fasse l'amour pour ton anniversaire?
Non, parce que je sens que t'as pas vraiment envie de moi.
Bon.
Non, c'est plus pour te détendre.
Et
quoi? Eh ben, je suis pas un spa.
Un quoi?
Un spa.
J'ai lâché le téléphone, comme ça. En ce beau matin d'automne, pas froid. Ça ressemblait à l'été, sauf que tu n'y étais pas. Puis j'ai regardé le ciel d'en bas. Que j'étais fait comme un rat. Comment est ta peine? La mienne est comme ça. Faut pas qu'on s'entraîne à toucher le bas. Il faudra qu'on apprenne à vivre avec ça. La mienne s'en vient, s'en va. S'en vient, s'en va. J'ai posé le téléphone comme ça. Je peux jurer avoir entendu le glas. J'aurais dû te libérer avant que tu me libères, moi. J'ai fait le bilan carbone trois fois. Parler de ta daronne sur un ton que tu n'aimerais pas. Tu ne le sauras jamais, car tu ne m'écoutes pas. Comment est ta peine? La mienne est comme ça. Faut pas qu'on s'entraîne à toucher le bas. Il faudrait qu'on apprenne à vivre avec ça. Comment est ta peine? La mienne s'en vient, s'en va. La mienne s'en vient, s'en va.
Les sorties de la semaine, on ne va pas effacer l'historique, Laurent, la Covid et le confinement, et encore moins la situation actuelle, très sensible en général et sur l'exploitation des films en particulier, la critique en temps normal, est un exercice délicat, encore plus en ce moment. Les spectateurs ont peur de retourner dans les salles, alors il faut autant que faire se peut leur donner de bonnes raisons d'y retourner. De bonnes raisons, cela veut dire concrètement des critiques argumentées, comme vous en avez l'habitude, et dans les deux sens, positifs et négatifs, sans toutefois tirer sur les ambulances, mais exprimer au plus juste de notre subjectivité, je sais, c'est illogique, notre avis. On va commencer avec le plus attendu des films de la rentrée, Tenet, de Christopher Nolan. Le film censé être la locomotive de l'exploitation cette rentrée. Un film de studio, certes, mais confié à un auteur qui exploite une nouvelle fois son obsession du temps. En gros, Laurent, le futur fait la guerre au présent.
Oui, oui, oui. Alors, il y a un moment donné, dans le tout début du film, une scientifique dit au héros, n'essayez pas de comprendre, ressentez.
Oui.
Auquel cas, d'ailleurs, le film est quasiment une citation de Paul Claudel, parce qu'au début du Soulier de Satin, on dit, c'est ce que vous ne comprendrez pas qui est le plus beau. Bon, je vous avoue préférer Claudel à Nolan, mais ça, c'est une autre histoire. Ce que l'on ressent, et c'est ça le problème, puisqu'on nous demande de ressentir, c'est un torrent d'images. souvent violente, beaucoup trop sonore la plupart du temps, avec une bande-son qui est assez dure à encaisser au bout d'un moment. Ce que l'on ressent, c'est aussi un air de déjà-vu par rapport à un très très méchant russe face à un très très gentil américain et une indienne très très fourbe. Ce genre de choses, on a peut-être envie de que ça soit un peu dépassé. Et puis, il y a ces images de failles spatio-temporelles que vous évoquiez avec... alors là, on nous avait habitué, Nolan notamment, à, vous savez, à ces immeubles qui se reconstruisent devant nous. Hein. Bon, là, ils se reconstruisent et ils se déconstruisent en même temps. Donc, du côté des images, c'est formidable, c'est effectivement, c'est très très bien fait. C'est
virtuose.
Absolument virtuose. De là à penser que c'est nouveau, je ne le crois pas. Je n'ai pas cessé de repenser à un film de Steven Spielberg qui décidément s'impose, je crois, dans ce courant cinématographique-là qui était Minority Report et qui était un film qui devient vraiment essentiel, je crois, dans ce discours-là. Le truc, c'est qu'il était quand même adapté de Ray Bradbury. C'est peut-être ce qui manque à Christopher Nolan.
Cela dit, il faut que ce film marche parce que si ce film marche, il va donner de l'argent au cinéma français, finalement. Marc-Olivier Sebag.
Comme d'habitude. Voilà. Oui, effectivement, c'est le système mutualiste, notre écosystème.
Voilà. On pique aux riches pour filer aux pauvres.
Oui, et pour permettre que y ait une production française dynamique, les films de Sophie à l'affiche, et pour permettre que le marché français soit un plus grand marché, y compris pour les films américains. Ouais. Donc finalement, tout le monde s'y retrouve, et c'est essentiel que Warner ait choisi de sortir en Europe et pas aux États-Unis encore ce film. Pour que le marché du cinéma reprenne, que les spectateurs soient là pour voir, y compris Tenet.
De toute façon, les gens qui aiment Nolan iront voir le film. Effacer l'historique de Gustave Carverne et Benoît Delépine avec Blanche Gardin, Denis Podalydès et Corinne Maziero dans un lotissement en province. Trois voisins sont en prise avec les nouvelles technologies, Laurent et les réseaux sociaux, Marie victime de chantage avec une sextape, Bertrand dont la fille est harcelée au lycée et Christine chauffeur VTC. Comédie grinçante pour raconter une époque sauvage.
Oui, alors, bon, un film qui dénonce les GAFA peut-il être foncièrement mauvais? Non, surtout s'il montre des gilets jaunes, ce point obscur de la société française et du cinéma français d'ailleurs. Mais est-ce que c'est suffisant pour que ce soit un bon film? Bon, ben ça sera la question du jour. Moi, j'ai tendance à répondre que dans cette veine-là, qui est leur veine à eux, qui est une de Lépine et Carverne, creusent leur sillon, je trouvais plus mon contentement dans Le Grand Soir, par exemple, qui me semblait plus acide, plus nerveux de ce point de vue-là. Peut-être est-ce parce qu'ils ont choisi un seul segment, un seul sillon, alors qu'il nous avait habitués à embrasser le monde et ses contradictions. Voilà, c'est peut-être la raison de cette petite déception.
Ensuite, La Femme des Steppes, Le Flic et l'œuf, il est déjà sorti, mais vous voulez y revenir, de Kwanan Wang. Le corps d'une femme est retrouvé au milieu de la steppe mongole. Un policier novice est désigné pour monter la garde sur les lieux du crime. Dans cette région sauvage, une jeune bergère malicieuse et indépendante vient l'aider à se protéger du froid et des loups.
Esprit rationnel, quittez ces salles de cinéma, n'y allez pas pour voir ce film. Non, au contraire, allez-y, précipitez-vous. Parce que franchement, dans le genre surréaliste, il y a belle lurette que je n'avais rien vu d'aussi déjanté. Ça part déjà du titre, hein. La Femme des Steppes, Le Flic et l'œuf, je vous expliquerai pas. Il y a deux flics, il y a deux œufs, enfin il y a tout en double quasiment. C'est merveilleusement raconté, c'est merveilleusement à part. C'est un pas de côté permanent ce film et ça fait bigrement du bien.
On va dire trois reprises très vite, Laurent, Ariane de Billy Wilder.
Oui,
Doudou de Zhang Yimou et Sexe Fou de Dino
Rizzi, bien sûr.
Et sinon, maintenant, c'est l'heure des cadeaux. On reprend la tradition.
Bien sûr. Mais on sait que Sophie Le Tourneur aime le documentaire, les choses documentées. Ben, on lui offre cette histoire d'un regard à la recherche de Gilles Caron, qui est un film de Mariana Otero sorti cette année. Le DVD est diffusé par Diafana. Vous savez, c'est l'histoire de ce grand reporter Gilles Caron qui a eu une vie brisée beaucoup trop tôt.
Météor, mais qui a... magnifique du photojournalisme.
Voilà, ouais. Exactement.
Et Soleil qui s'arrête sur mai 68, sur l'Irlande du Nord.
Des photos qui font date. Voilà.
Ah bah merci beaucoup.
Voilà, c'est un œil, un regard. Et puis alors, je sais, Marc-Olivier Sebag, que vous ne pouvez pas parler des films, donc je ne vous demanderai pas si vous l'avez vu, je ne vous demanderai pas si
moi
vous l'avez
aimé.
Moi
aussi, quand même.
Mais moi, je parle de tous les films.
La fille au bracelet, le film de Stéphane de Moustier, avec Chiara Mastroianni et Roche Dizem et Mélissa Gers, qu'il faut impérativement citer. C'est une sorte d'affaire judiciaire presque en direct, c'est au pacte, et là aussi c'est un film français très très intéressant, avec de beaux dialogues notamment, et une vraie mise en scène.
Vous l'avez vu ?
Non, je ne l'ai pas vu.
Eh bien, voilà,
vous allez,
c'est l'occasion.
Vous allez beaucoup au cinéma ou pas?
Ben, je vais beaucoup au cinéma. Mais,
vous aimez le cinéma, comme tous les Français.
En fait, vous aimez le cinéma.
Je tiens quand même à rappeler que durant tout l'été, les Français sont allés beaucoup au cinéma. Ouais. À plus d'un million de personnes par semaine, hein, qui sont allées au cinéma pendant tout l'été. Ouais, ouais. Il y avait pas beaucoup de films, il y en a beaucoup plus, mais ces films ont très bien marché pour la plupart d'entre eux, et je souhaite la même chose au film de Sophie, car les Français ont prouvé qu'ils aimaient, qu'ils avaient envie de cinéma, de voir plus de films, de voir tous les jours des films.
C'est dit.
Un jour, une journaliste lui a demandé si on ne l'abordait pas trop souvent dans la rue. Jamais, lui a-t-il répondu. Venez avec moi dans le métro, vous verrez. J'ai écouté le reportage, personne effectivement ne l'abordait. Michel Piccoli n'était pas une star, mais un immense acteur, moins proche peut-être dans le cœur des Français qu'un Rochefort ou qu'un Marielle, moins volubile, plus opaque, plus discret, mais tellement présent dans ses rôles, plus abordable chez Sautet, plus extrême chez d'autres, comme Ferreri, Buñuel, Bellocchio, Faraldo. La peur du ridicule, de l'impudeur, connaît pas, disait-il. Aucun sujet ni rôle ne le rebutera. Piccoli aimait l'extravagance, un mot qu'il employait souvent. Oui, des rôles extravagants dans lesquels tout pouvait arriver sans prévenir. La séduction, la colère, le mutisme, la folie, la joie. Au bord de la catastrophe, comme il le dit dans notre générique. Il m'avait un jour confié rêver jouer dans un film de Robert Bresson qui n'engageait que des amateurs. Pour renaître devant la caméra, retrouver cet appétit du jeu qui pourtant se voyait dans ses yeux. « Tu as le regard d'un homme qui aime et qui sait regarder », disait son ami Serge Reggiani. « Tes yeux ont toujours exprimé la plus grande curiosité. Ce regard n'est pas inquisiteur, mais avide de tout voir, de tout savoir, de tout connaître. » Cette citation est extraite d'un livre paru cette année, Piccoli, derrière l'écran d'Anne-Sophie Mercier, chez Alary Éditions. Un sacré travail d'enquête pour percer quelques secrets de cet homme si secret justement et sur son enfance, ceux d'un acteur hors norme. 7 décennies de cinéma, Laurent.
Oui, si un acteur c'est d'abord une silhouette et une voix, alors pas de doute, le 1m93 de Michel Piccoli et plus encore sa voix le classe hors catégorie. Oui, une voix incroyable, capable d'hésiter, de buter sur les mots, puis de les susurrer à l'oreille de Romy Schneider, comme chez Sauté et Dabadie. Tiens, Dabadie aussi est parti, ça doit être ça, les choses de la vie. Une voix capable d'éructer comme dans Le Sucre de Jacques Rouffio et plus encore dans Thème Rock de Claude Faraldo et presque comme un cri final chez Moretti. Capable de rire aussi comme un diable chez Francis Giraud, aussi bien que chez Ferreri ou Chabrol. Capable tout autant d'être d'une neutralité inquiétante comme chez Granier de Fer. Capable de tout, en fait, y compris sur les scènes de théâtre, chez Chéreau et Bondy notamment. Le tout avec des convictions ancrées à gauche, l'impudent. Cette voix, on va l'écouter encore et encore, rien que pour le plaisir, et ce sera tour à tour celle de Milou, de Max et de Michel.
Vous voulez vendre la maison?
Pourquoi pas?
Enfin, c'est ce qui nous unit, cette maison. On n'existe plus sur la maison. On est des Romains Michel, on n'est nulle part. Tu veux commencer aujourd'hui à partager les meubles? Devant maman?
Évidemment. Pour une fois qu'on est tous là, Georges va s'en aller demain, Claire aussi.
Et pourquoi vous voulez tout vendre? Vous êtes fous? Les vignes, à la rigueur, ça vaut plus rien, mais gardons la maison. Et venez tous en vacances, comme on l'a toujours fait. Oh merde! J'ai plus faim! Je mourrai ici, moi, c'est mon endroit. On me privera pas de mon enfance, hein, je vous avertis.
Laissez-la tranquille.
Comment dois-je prendre ça?
Foutez-lui la paix, Rosaski.
Et les autres petits cons? On va les laisser en paix? Sans cette fille, il serait libre.
Il n'est pas responsable, Rosaski, vous le savez.
Alors? Alors qui est responsable? Jusqu'où faudrait-il remonter? Jusqu'au banquier.
Vous saviez très bien que c'était moi le banquier.
Bien sûr. Le studio dans le 15e. Tout le monde n'a pas de la fortune personnelle. L'utile à l'agréable. Seulement, je peux rien contre vous. Alors c'est elle qui va payer.
Salaud.
Gardez votre sang-froid. Je crois que nous n'aurons plus rien à nous dire.
Laissez-la tranquille, Rosaski.
Je fais mon travail. Je mènerai cette affaire jusqu'au bout. Personne ne m'en empêchera. Cette fille paiera. Je vais prendre sa déposition et avec ce que je sais, ce soir, elle couche en prison. Comme les autres. Vous êtes fous?
Ooh, ooh, ooh.
Voilà, c'est fini. Merci Sophie Le Tourneur. Énorme sort mercredi prochain. Et merci Marc-Olivier Sebag. On vous laisse les clés du générique. Au revoir.
Je sors d'une même clé.
À quoi ça te servira de savoir ce qui est vrai?
Tu vois, tu reconnais que j'ai raison.
Pas du tout, je reconnais rien. Je veux que tu me laisses tranquille. C'est vrai. Je t'aime plus. Il n'y a rien à expliquer, je t'aime plus.
Pourquoi? Hier, tu m'aimais encore?
Oui, beaucoup. Maintenant, c'est fini.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma.
Il y a des réalisateurs et des acteurs.
Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs.
Les prises de vue sont des prises de son.
Georges Delerue a écrit les musiques du générique.
Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez.
Christophe Maget s'est occupé de la préparation.
C'est une émission réalisée par Laurent Thomas et Claire Destacan.
Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas. Et moi, Sophie Le Tourneur, j'y étais.
Et moi, Marc-Olivier Sebag, j'y étais.